Notre invité va nous faire découvrir le monde de l'architecture. Il en est un acteur majeur, l'un des plus grands, l'un des plus connus et reconnus. Son nom est associé à des édifices qui sont une fierté nationale, mais qui surtout, et c'est peut-être le principal pour lui, qui font la fierté des locaux, des habitants des villes concernées. Les Nantais sont très fiers de leur gare, par exemple, les Aixois de leur pavillon noir, les Parisiens de leur stade Jean Bouin. Et que dire alors de la fierté des Marseillais devant le MUCEM, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Tout cela et bien plus encore, c'est lui. Et je parle des habitants, des gens, des Français, parce que c'est d'abord à eux qu'il pense lorsqu'il conçoit un bâtiment. Il a choisi ce métier en observant les maçons, les artisans, les ouvriers sur les chantiers, bravant le froid, le vent, sans protection parfois. Si je n'avais pas senti l'odeur des matériaux, la sensibilité et l'âpreté du monde du travail, je ne serais pas l'architecte que je suis devenu, dit-il. Quel architecte est-il devenu, justement? Qu'est-ce qu'un projet réussi à ses yeux? Quelle est sa définition du beau? Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un monde, un regard. Bienvenue à vous, Rudy Ricciotti. Merci d'avoir accepté notre invitation ici au Sénat. Parlons de vos œuvres à vous. J'ai un peu évoqué quelques œuvres en introduction. Elles sont si différentes les unes des autres. Alors, il y a le MUCEM, il y a le musée Jean Cocteau de Menton, la philharmonie de Gstaad aussi. Est-ce que ces œuvres vous ressemblent? Est-ce qu'elles disent quelque chose de vous, de l'homme que vous êtes?
Alors là, je n'ai pas de réponse à ça. Ce n'est pas mon objectif. D'accord. Je n'ai pas ce sens du miroir à ce point-là. J'ai entendu dire souvent que c'était le cas, notamment par le fait que je fais une architecture, que je revendique une architecture plutôt féminine. On le voit dans le dernier projet que j'ai fait pour Chanel à Paris, à la Porte d'Aubervilliers. On le voit dans le département des arts de l'Islam au Louvre. On le voit dans différents projets comme la salle de Hastadt, Hastadt à Berlin, la philharmonique à Potsdam. Il y a beaucoup de féminité, je veux dire, avec beaucoup un déficit d'humilité, de grâce. Ouais. En ce sens, je dois avoir un côté un peu femme, c'est possible, tout en étant hétérosexuel, de race blanche, coupable, à fort accent, avec un faciès méditerranéen, vous voyez.
Mais féminité dans vos œuvres, c'est ça la ligne
directrice? Oui, c'est plutôt ça, malgré moi. Je n'ai pas fait exprès, c'est sorti par l'exigence du travail, l'exigence sur les valeurs du labeur. Vous savez, davantage on exige de la matière, de ressources, de puissance, davantage l'acrimonie est grande quant à la question esthétique. C'est-à-dire elle doit être légitime, fondée sur une immédiateté. J'exècre les mots comme minimal, conceptuel, qui sont l'apanage des feignants. Non mais attendez.
Et vous, c'est le travail, hein, votre...
Ah non, c'est la vertu essentielle, le labeur et sa mémoire, et l'ensemble des métiers qui fabriquent ce labeur.
Voilà. C'est quoi un bon architecte, selon vous?
Un architecte anxieux.
Pourquoi?
Inquiet. Parce que j'aime cette phrase d'un économiste anglais qui disait « Tomorrow only paranoïaques will survive », demain seuls les paranoïaques survivront. Pour être un bon architecte, il faut être d'abord inquiet et ne pas voir la vérité là où on croit qu'elle est. Elle est toujours derrière. Elle est toujours ou devant ou derrière le factuel. Elle n'est pas là. Donc, un bon architecte qui veut survivre, s'il ne veut pas prendre une balle immédiatement, il faut d'abord qu'il réfléchisse à qui il parle et d'où il parle. D'apostrophe au U accent. D'où je parle. Et on parle toujours à partir d'un territoire nourri. Voilà.
L'architecte est au croisement d'injonctions souvent contraires. On parle du beau versus le pratique. Est-ce qu'on est obligé de faire des compromis quand on est architecte?
C'est le métier lui-même qui est fait sur le compromis, avec cette nécessité d'en faire le moins possible. Parce qu'il y a des compromissions utiles, d'autres néfastes. Les compromissions utiles sont celles où on essaie d'économiser les ressources, par exemple. C'est un compromis avec la nature, avec les exigences du monde. En tout cas, dans mes projets, il y a une économie de matière, surtout dans les derniers, de plus en plus. D'où une certaine grâce, une fragilité, une féminité, mais à laquelle je demande beaucoup d'efforts. Comme on le fait avec les femmes. Les femmes sont toujours convoquées à faire beaucoup d'efforts, peu reconnues, à porter des fardeaux incroyables, des enfants très lourds dans les bras, alors elles n'ont pas la charpente d'un parachutiste, tout de même, vous voyez. C'est un peu ça que j'attends de cette architecture. Mais que dire de plus? Chaque projet est différent. Chaque projet est un contexte. Ouais. Chaque projet est une circonstance.
Ce que je trouve assez fou, c'est que l'architecture est un domaine assez peu connu du grand public et reconnu par le grand public, alors que ça nous concerne tous, c'est-à-dire qu'on vit tous quelque part, on travaille tous quelque part, a priori, en tout cas, on est censé tous concernés par le bâtiment dans lequel nous sommes. Et finalement, j'ai le sentiment qu'il y a une espèce d'ingratitude vis-à-vis de l'architecte. Vous le ressentez comme ça ?
Je le ressentais comme ça, mais je ne veux pas me plaindre. Je pense qu'on est mal placé pour se plaindre. Oui. Je pense que c'est un métier très riche. Je ne suis pas là pour faire un plaidoyer syndicaliste. Mais évidemment, j'ai beaucoup à dire. Et d'ailleurs, je le dis dans des livres, je le dis dans des manifestations, dans des conférences. Je ramène ma grande gueule dans des lieux publics pour défendre l'exercice de ce métier. Dans certains livres, l'architecture, un sport de combat, l'exil de la beauté, enfin vous connaissez ma littérature, il y en a une dizaine. Mais néanmoins, on est encore privilégié en France par rapport à d'autres pays.
J'ai d'abord un document à vous proposer, c'est une archive délivrée par nos partenaires, les Archives Nationales. Il s'agit d'un lotissement HLM réalisé dans le cadre du concours international de la maison individuelle en 1969. Là, on est à Crest, près de Montpellier, un ensemble de 235 maisons, bien carré, bien aligné. Je crois que vous avez vous-même réalisé dans cette même ville, dans les années 2010, le HLM La Capitelle. Et vous avez dit un jour, imposer la laideur en architecture, c'est mépriser le peuple. Est-ce que vous avez le sentiment qu'avec ce type de grands ensembles qui ont foisonné à un moment donné de notre histoire, est-ce qu'à ce moment-là, on a méprisé le peuple avec ces grands ensembles ?
Absolument. Mais c'était une époque aussi où il n'y avait pas de logement individuel, il n'y avait pas de logement social. Donc les gens étaient heureux d'avoir un lieu. Moi-même, j'ai découvert le confort dans un HLM quand j'avais 4-5 ans, avec un sol souple, une baignoire, les radiateurs, je trouve ça formidable. Et d'autres copains qui habitaient dans des quartiers qui n'étaient pas du logement social venaient chez moi pour voir ma chambre avec un sol bleu, ils étaient estomaqués. Vous imaginez, il n'y avait pas d'ascenseur, mais c'était un luxe. Non, ce qui est la vraie... Il faut bien essayer de décerner où est la culpabilité derrière ça. Oui. La culpabilité, ce ne sont pas que les architectes, ce sont les organismes de production de logements qui sont responsables. Ce sont les administrations territoriales qui utilisent ce type de composition urbaine néfaste, oui, sans intelligence. Ce sont aussi les architectes.
Par souci d'économie ? Pourquoi d'après vous ?
Non. Alors, par souci d'économie, j'aimerais bien. Par souci de bonne conscience. Vous voyez ? De bonne conscience. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça sans culpabiliser ? Ben, je vais vous dire, la totalité des intervenants, le maître d'ouvrage, l'élu, l'administration territoriale, le ministère de l'équipement, l'architecte, tout le monde est mouillé jusqu'à la garde. Ce n'est pas la peine d'essayer d'y voir autre chose. Et même doctrinairement, ce sont les conséquences néfastes d'une modernité acculturée. Totalement.
Il y a une dizaine d'années, Télérama a fait une enquête sur ce que le magazine a appelé à l'époque la France moche. Le gouvernement a annoncé un grand programme de transformation de cette France moche, de ces zones moches. Il y a une urgence à se débarrasser de ces zones industrielles, de ces parkings, de ces espèces
oui,
de...
Oui, alors, tout cet environnement périphérique aux villes, bien sûr, c'est un territoire à reconquérir. D'abord, c'est un territoire avec une horizontalité parfaite. Donc, il n'y a rien en élévation, donc il n'y a pas d'économie du sol, il y a une imperméabilisation du sol. Évidemment, c'est le béaba, mais il faut avoir le courage de réformer les documents d'urbanisme qui les définissent. C'est là peut-être que ça... Oui, bien sûr, il faut surdensifier sur les bâtiments existants, empiler des activités, des parkings en surface, enlever les parkings, des parkings sur la toiture, enlever ça en surface pour enlever le goudron, planter des végétaux, ou même multiplier les activités par empilement.
Un message que vous envoyez aux élus ici présents
au
Sénat ?
Message que j'envoie aux collectivités territoriales, autant qu'à notre administration nationale. Mais il faut des réformes courageuses pour ça. Et c'est peut-être ça qui manque dans notre pays, des réformes courageuses. Parce qu'à part des injonctions contradictoires à dire « il ne faut pas imperméabiliser le sol », mais il ne faut pas monter en hauteur. Mais il n'y a pas d'autre solution que la dépression nerveuse. Comprenez ça.
L'une de vos nombreuses particularités, c'est d'être un adepte du béton. Vous en avez fait même un texte, un manifeste, le béton en garde à vue. Je vous cite, « Un matériau à qui je parle et qui me parle parce qu'il est prévenant, attentionné, à l'image d'une bonne mère. » Vous dénoncez d'ailleurs le procès qui est fait au béton, jugé par certains trop consommateurs en sable, et vous répondez « Le béton a une empreinte environnementale 80 fois inférieure à celle de l'acier et 200 fois à celle de l'aluminium. » Ça veut dire que le béton, c'est encore l'avenir ?
D'abord, on ne fait plus le béton comme on le faisait dans les années 30, et qu'effectivement, l'empreinte environnementale s'est considérablement effondrée. enfin réduite, pardon, et qu'on a quelques industriels, dont en France quelques-uns, dont un, qui fait un béton avec une empreinte environnementale nulle. Et la réponse n'est pas sur le matériau lui-même, c'est sur l'économie qu'on en a, et le ramener à une équation dans laquelle la distance entre le lieu de production et le lieu de consommation doit être le plus courte possible, et la durée de vie. Mmh. Après, pour faire comprendre ça aux écolos irascibles, c'est difficile, parce qu'il faut une culture techno-scientifique, comme on est. Mmh. Le problème, c'est qu'on parle à tort et à travers. Aujourd'hui, le béton est le matériau le plus socialisé. C'est le matériau qui défend une mémoire de proximité. C'est le matériau qui défend aussi des savoir-faire qui, accumulés, font une richesse territoriale. Et c'est un matériau qui n'est pas spéculatif, contrairement au coton, au chocolat, à la vanille, au pétrole, au gaz. Voyez-vous, il faut avoir un peu de jugement et être un peu moins irascible sur ça. Mais c'est vrai que dans un pays qui est de moins en moins commandé, ordré sur le désir du travail, ouais, peut-être que ça devient suspect.
Mais de manière générale, vous êtes très en colère contre le discours écologiste anti-béton. Je vous cite, vous parlez d'un anéantissement idéologique et imprudent du béton. Le béton, c'est une famille d'emplois, de métiers qui partagent un savoir. Il faut de la bienveillance pour le béton, dites-vous. L'écologisme va devenir le tremplin du fascisme.
Ouais,
il y a une grande colère en vous.
Non, attendez,
un peu de provocation.
Non, il n'y a pas de provocation, je le pense.
Ouais.
J'ai une idée très noble de la question environnementale et écologique. Et je pense d'ailleurs que le futur du monde, comme laboratoire de pensée, sera plutôt le monde rural que le monde urbain, mm-hmm, hein, pour accélérer la pensée. Et que je vois avec plaisir en lisant la presse ce matin que dans un groupe des pays, là, le G20... la plupart des pays vont relancer la question nucléaire, notamment dans des formats plutôt réduits.
Oui, à petite échelle.
Évidemment, pour trouver des alternatives au charbon, etc. Et il faut quand même bien réaliser que lorsqu'on fait venir une charpente bois de Pologne pour aller à Perpignan et qu'il y a, je sais pas, 1500 km à traverser sur une charge très légère, parce que le bois flotte sur un poids lourd qui n'est pas chargé à bloc de ses capacités, l'empreinte environnementale, elle est désastreuse. Mais personne ne veut la voir. Par déni, mais surtout par incompétence technique, ouais, et scientifique. Mmh. Et je vous le
c'est
dis,
ça que vous mettez en avant, hein, c'est l'expertise.
Non seulement le béton a la meilleure empreinte environnementale de tous les matériaux, et ça se discute même avec le bois, sur les, ouais, conditions d'extraction, de transport, depuis les scieries, des centaines de kilomètres, etc. Mmh. Mais en plus, encore une fois, elle défend cette condition sociale d'une mémoire collective. Voilà. Et d'être aussi fiscalisé en France territorialement. Vous voyez ?
C'est-à-dire ?
Ben, d'être assujetti à l'ensemble des règlements qui font la santé d'une République, c'est-à-dire la fiscalité, la santé, vous voyez, le droit social.
Pas partenir,
Oui, parce que ça vient pas du tiers-monde, contrairement à beaucoup de matériaux qui arrivent de je ne sais d'où. Mmh. Voyez.
Vous êtes aussi en colère contre...
Je ne suis pas en colère, je suis vivant.
Oui, ouais. Bah, donc c'est très
et puis,
bien.
J'aime tellement
la colère, c'est une façon d'être
et puis,
vivant.
Vous savez, j'aime tellement mon pays, la France,
ouais,
que je veux en défendre tout ce qui fait l'intelligence. Mmh. Voilà.
Mais alors, en tout cas, ça vous met en colère. Ce qui vous met en colère, c'est le harcèlement bureaucratique. Ce sont vos termes. Hein. Vous dites, il y a 30 ans, il fallait 3 mois pour instruire un permis de construire de nos jours. Ça peut aller jusqu'à 1 an et la masse documentaire à fournir a été multipliée par 100. La surréglementation a atteint un niveau hystérique. Est-ce que ça vous fait même dire que peut-être le métier d'architecte est menacé par tout ça ? Par ces injonctions écolo, par ces injonctions administratives ?
C'est l'intelligence du métier qui est menacée. Je parle avec des jeunes confrères, tout neufs, là, la trentaine. Mmh. Ils sont déjà désespérés avant de commencer leur métier parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Mais c'est pareil en médecine. Lorsque je parle avec un médecin, ils me disent que c'est la même chose. Mmh. Il y a une hystérie, une masse réglementaire dont on se demande quel est le fond, dont on pourrait tenter d'imaginer qu'elle a pour objet de cristalliser le fonctionnement ou la lecture démocratique du dispositif, mais ce n'est pas vrai. C'est en fait une bureaucratie quand même, qui a été inventée par Napoléon pour fluidifier et garantir le modèle démocratique. Mmh. Bravo Napoléon. Sauf que...
Ça se retourne contre nous.
Maintenant, ça se transforme comme un virus, un virus qui se transforme, vous voyez, le virus du sida par exemple, qui s'est transformé plusieurs fois. De sorte que la bureaucratie a compris qu'en fabriquant de la nuisance, elle renouvelle son territoire existentiel. Voilà.
Vous conseillez aux jeunes
dont elle-même est victime. Ouais. Il suffit simplement de parler avec des gens qui parlent dans des administrations territoriales. Ils sont désespérés. Ils vivent de l'intérieur le monstre qu'ils ont eux-mêmes créé. Alors, c'est pas un discours plaintif, droitier. C'est juste un discours, si on aime son pays, on doit le dire. Mmh. On doit dire les choses.
Mais vous conseilleriez aux jeunes de se lancer en architecture aujourd'hui ou pas ?
Bien sûr.
Malgré tout ça.
Ouais. Mais attendez,
qu'est-ce qu'il lui faudrait à ce jeune qui se lance en architecture aujourd'hui ?
Une bonne santé, d'abord. Une bonne santé psychique. Il lui faut du cœur, faire fonctionner un peu la cervelle et du ventre, un peu de l'estomac. Voilà.
Parce que vous avez obtenu de très nombreux prix, des distinctions très prestigieuses, le Grand Prix National de l'Architecture en 2006, le Grand Prix Spécial du Jury de l'Équerre d'Argent. Est-ce que la France se distingue dans le monde sur le plan architectural ? Est-ce qu'on a de bons architectes ? Vous, évidemment, mais est-ce que globalement, la France se distingue ?
Oui. Ouais. Je peux vous dire, j'ai dû faire peut-être 200 conférences dans le monde. Ouais. Pour moi, c'est clair, les bons architectes sont français. Que ça vous plaise ou pas de l'entendre, c'est comme ça.
Bah, ça nous plaît, après.
Je vais vous dire, malgré la médiocrité de la pédagogie, parce que les enseignants ne sont pas au niveau du métier, sont souvent des gens démunis d'expérience, ils ont cette paranoïa, les étudiants en architecture, cette capacité à se relever, à devenir des combattants instinctivement, parce que très vite, ils comprennent que tout est tordu, tout est voilé. Mmh. Ils savent qu'il faut y aller, qu'il faut mettre les mains dans la partie obscure de la matière pour savoir de quoi elle parle, et pour l'attraper et la saisir, vous voyez. Et donc,
c'est super, c'est plein d'espoir ce que vous dites.
Oui,
si on a
oui.
Très bons étudiants.
Non, je peux vous dire... Je renouvelle quand même mon cabinet, il a 42 ans d'existence, 43 ans. J'ai toujours de jeunes architectes inexpérimentés qui viennent chez moi. Ce qui me frappe, c'est qu'en quelques mois, ça devient des vrais cavaliers, vous voyez, des fantassins, je ne sais pas comment des combattants. Je suis très très surpris, parce que c'est l'inquiétude qui les gouverne. C'est un métier où il n'est pas nécessaire de faire de psychanalyse. Vous êtes le miroir. Ce que vous faites, c'est votre propre miroir.
Ouais. On va se pencher sur votre histoire personnelle, un petit peu, parce que ça fait partie des rituels de cette émission. Vous êtes un Méditerranéen 100%. Né en Algérie, famille d'origine italienne, aujourd'hui installée à Cassis, vous êtes très vite au contact des métiers de construction au travers de votre père, qui était maçon au départ, qui avait quitté l'école à l'âge de 12 ans et qui a fini directeur général d'une entreprise inscrite à l'ordre des architectes, un homme qui s'est fait tout seul. Vous non plus, ce n'est pas grâce à l'école que vous avez réussi. Vous étiez un très mauvais élève, dites-vous. Vos propos sont d'ailleurs assez durs sur vous-même, ça m'a frappé. Vous dites, j'étais médiocre en tout. J'avais redoublé mon CM2, j'étais programmée pour l'échec. Je n'avais aucune estime de moi-même. Je me sentais inexistant. J'ai trouvé ça extrêmement difficile, ces propos sur soi. C'est vraiment ce que vous ressentiez comme...
Malgré les apparences, c'est toujours un peu comme ça. J'ai des grands moments de dégringolade.
De perte de confiance.
De type saturnienne, je veux dire, c'est pas la perte de courage, c'est pas la perte de confiance, c'est la perte d'estime de soi-même. Au bout d'un moment, je me trouve extrêmement lâche. Je me trouve très très lâche. Ouais. Lâche par rapport à des phénomènes sociaux. Je sens que devant certaines adversités, je n'ai pas le courage. Mmh. Je pense à ceux qui défendent la France. Je pense aux combattants qui défendent la France. Mmh. Je pense à nos jeunes policiers qui se prennent des trucs enflammés dans la gueule, vous voyez, pour le SMIG. Je pense à ces fils du peuple, comme disait Pier Paolo Pasolini, qui sont là pour défendre la santé, l'éducation. Voilà, le plaisir de vivre ensemble.
Vous êtes devenu officier supérieur au sein de la réserve citoyenne. Vous avez écrit « Manifeste légionnaire, 88 pas minutes au service de la démocratie ». Vous dites d'ailleurs « Je ne supporte plus l'antimilitarisme de bistrot ». Mais vous êtes sur le terrain, vous êtes...
Ah oui, et je suis très très fier d'appartenir à cette armée d'élite qui est la Légion étrangère, dont je suis effectivement lieutenant-colonel. Mmh. Et,
vous joignez la parole aux
Oui, qui sont des gens... où honneur et fidélité sont majeurs. Et depuis que je les côtoie, vous ne pouvez pas savoir le bonheur que c'est d'être avec des gens qui ont des valeurs. Des valeurs en amitié, des valeurs en solidarité. Ils sont
fidélité,
pour moi un exemple.
Loyauté, courage.
Avec 150 nationalités différentes, culture, religion, race, langue, mémoire. Est-ce que vous imaginez ce qu'est le partage ? Ces gens qui ont besoin... et qui ont le droit, après avoir eu une enfance, souvent une jeunesse...
chaotique.
chaotiques, méprisées, faites de souffrance, qui ont le droit à une seconde vie. Mmh. Et la France leur amène ça, avec solidarité.
Si je poursuis le fil de votre histoire, vous allez être très vite fasciné par ce que vous voyez au contact de ces chantiers, de ce travail manuel, par le courage, là aussi, de ces ouvriers. C'est décidément une valeur qui revient souvent chez vous. Ça a été un déclic, ça a été un tournant d'observer ces ouvriers sur les chantiers. C'est là que vous vous dites...
Je les voyais un peu comme des cow-boys avec le marteau à la ceinture. J'étais émerveillé. j'étais émerveillé devant la baraque de chantier de mon père, où il était chef. J'entendais mon père vociférer. Voilà, c'était l'époque. Je devais avoir à peine, même pas 10 ans. Vous voyez. Ouais. Voilà. Oui, j'ai toujours vu ce milieu comme un espèce de milieu forestier dans lequel il y a plein d'animaux plus ou moins sauvages qui sont à l'intérieur. J'ai toujours un peu Alice au pays des merveilles version masculin, hein, voilà.
Alors à l'âge de 12 ans, vous faites une rencontre déterminante, un certain monsieur Jean, un comptable communiste qui vous donne des cours de maths dans la cuisine de son HLM à côté d'un frigo très très bruyant dont vous vous souvenez encore. Et lui, il va bouleverser votre vie et votre regard sur vous-même. Est-ce qu'il va vous redonner confiance justement, un peu ?
Je pense qu'il a déclenché chez moi cette paranoïa utile et nécessaire à ma survie. De cette façon-là, effectivement, je vais avoir 11 ou 12 ans. J'étais nul en tout, évidemment, inconscient que j'étais nul en tout. Et puis... Il me donne des cours de géométrie et d'algèbre. Il me sort cette phrase incroyable. Je l'entends comme si c'était hier. Avec la lampe au-dessus de la nappe cirée dans la cuisine, dans son HLM. Rudy, la géométrie est l'art de raisonner juste sur des figures fausses. Ça m'a fait l'effet d'une balle qui me traverse la boîte crânienne au ralenti. Et je me suis dit dès ce jour-là, donc, ce que je vois n'est pas la vérité, la réalité est ailleurs. Mmh. Et cette idée... De quête d'une réalité qui ne serait pas celle portée par les mots, par les signes, par les formes, par les couleurs, m'a aidé à survivre dans le cursus de mes études. Je lui dois l'ingénieur que je suis, l'architecte que je suis, le Grand Prix National, le membre de l'Académie des technologies.
Vous avez eu l'occasion de lui dire
Il est mort.
J'ai cherché,
ouais. Il n'avait pas d'enfant, et lui et sa femme ont donné leur corps à la science. Et là, je réalise que c'était un grand humaniste. Et je lui dois tout. Je pense que je lui dois tout.
À la lueur de celui que vous êtes aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous aux petits garçons qui se lancent dans la vie ?
Petit garçon, petite fille, dans la vie, mais à quel âge ? Vous savez, moi, mes enfants, je les ai éduqués dans l'exigence du labeur. Mmh. J'ai 3 enfants, je suis grand-père 6 fois. Et au village de 6 000 habitants à Bandol... Ils ont fait l'école maternelle, le collège, l'école maternelle, le primaire, le collège, le lycée à Toulon. Et à l'arrivée des courses, là où on est dans un échec social phénoménal, vous comprenez, la plage, la mer, les bateaux. L'aîné, il est ingénieur des ponts et chaussées, spécialiste en mathématiques appliquées. La deuxième, elle est avocate de droit public. Et le dernier est architecte. Ils ne se sont pas trop mal débrouillés. Et s'ils ne se sont pas trop mal débrouillés, alors que je n'avais pas de temps à leur consacrer, c'est qu'ils avaient bien enregistré un message quand même.
La culture du travail.
Celui que je leur disais, je paye trop d'impôts, je ne paierai pas l'enseignement privé. Vous êtes mal barré, vous êtes provincial, vous avez l'accent, vous avez un nom qui finit par I, ça va être dur pour vous. Donc ce n'est pas la peine d'attendre l'ascenseur social, vous allez prendre l'escalier. Ils ont pris l'escalier. Ils ont créé tous les trois leur métier, ils en vivent très bien, voilà.
J'ai des photos pour vous, Rudy Ricciotti. La première, la voici. Vous voyez regarder ces photos avec méfiance. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors, il s'agit de la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, inaugurée par Emmanuel Macron. Chaque président a tendance à laisser son empreinte dans le paysage. On a eu Mitterrand avec la BNF, Chirac avec le musée du Quai Branly. Comment expliquez-vous que les présidents aient à ce point besoin de marquer leur mandat ou l'histoire avec un bâtiment, avec de l'architecture ?
Mais c'est une histoire naturelle de la civilisation occidentale. Ça ne me paraît pas la marque...
C'est-à-dire ?
C'est pas forcément la marque d'un ego, d'un pathos. Ouais. Je pense que l'architecture, en tous les cas, même pas à l'altitude du chef de l'État, témoigne, pétrifie un moment politique, esthétique, économique d'une société, et que c'est normal qu'un homme politique, alors surtout le président...
Vous qui aimez les mots, vous qui aimez la langue française, vous auriez aimé réaliser ce projet ?
Alors, je ne l'ai pas visité.
Ouais.
Je ne l'avais pas visité, je ne le connais pas bien. Mais ça a l'air charmant, il y a une partie historique qui m'a l'air bien conservée. Après, ce que je ne vois pas bien, faites voir. Je ne l'ai pas visité, c'est une verrière, c'est ça? Oui.
Oui.
Non, mais c'est, moi, je trouve ça pas mal. Hein.
Ouais.
Mais
c'est réussi.
Je ne l'ai pas vu, mais non, je ne peux pas dire que ce n'est pas bien. Voilà.
Une deuxième photo. Fabien Roussel, oui. Patron du Parti communiste pour lequel vous avez voté au premier tour de la dernière présidentielle. Vous dites appartenir à la gauche réac, au sens réactive, à l'ère du temps.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Mais c'est vrai, j'ai voté Fabien Roussel. Oui. Je n'avais jamais voté communiste, j'avais voté pour lui, parce que j'étais en voiture et je l'entends dire qu'il était pour le barbecue, la chasse, la corrida... et le nucléaire.
Ça
et là, je dis, ah, je dis, De Gaulle, le grand retour. J'ai voté pour lui.
Au Parti communiste. Donc.
Voilà. Et au deuxième tour, j'ai voté Macron.
J'ai une dernière question qui est en lien avec ce lieu, Rudy Ricciotti. Nous sommes entourés de 4 statues qui représentent chacune une vertu. Il y a la sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence. Laquelle de ces vertus vous parle le plus ou vous caractérise?
Alors, écoutez, la sagesse, certainement pas. Ça me déprime, la sagesse. Je trouve ça complètement déprimant, quoi. C'est une prétention, quoi. C'est comme l'humilité, vous savez. L'humilité n'est que le masque de la vanité. C'est William Blake qui avait dit ça. Mm-hmm. Donc, surtout pas la sagesse. Je le laisse aux jeunes, là, vous voyez, la sagesse. Mm-hmm. Pour essayer d'accélérer leur destin le plus rapide vers la porte de secours, vers la porte de sortie. La prudence, ça me ressemble absolument pas. Parce que
d'accord,
je suis très,
c'est
très,
pas vous non plus.
Je suis très imprudent.
La justice et l'éloquence.
Attends, et je vis dangereusement. Alors, ce que j'aime dans l'éloquence, c'est l'exigence linguistique. C'est-à-dire, on a une belle langue, le français, et bon, bah, il faut l'utiliser. Moi, j'ai interdit dans mon bureau qu'on utilise des termes anglais, par exemple.
Les anglicismes.
Ah bah, oui, d'accord. Et puis, je n'ai que mon bras droit associé... directeur d'agence, qui est autorisé à signer un courrier à ma place parce qu'il sait écrire le français très bien. Mais voilà, dans l'éloquence, je retiens, c'est l'amour de la langue. Voilà.
L'éloquence, on s'arrêtera
oui,
sur
mais
ça.
Comme au 19e siècle.
La boucle est bouclée. Merci Rudy Ricciotti d'avoir été avec nous dans Un Monde, Un Regard. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. Émission à retrouver en podcast, bien sûr. À très vite sur Public Sénat. Merci.